On avait prévu aujourd'hui de faire une émission entière consacrée au message que vous avez laissé sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. Or, nous devons aujourd'hui témoigner, Guy Ventil et moi, dans le cadre du procès contre Hans Münch. Hans Münch, vous vous en souvenez peut-être, est ce médecin nazi qui était à Auschwitz. Vous vous souvenez peut-être de cette série d'émissions. À la suite de ces émissions, une action a été intentée contre Hans Münch, des associations de déportés, le MRAP, et se sont portés partie civile, et aujourd'hui nous devons témoigner dans cette affaire. Alors c'est une occasion de rediffuser, de vous faire réentendre l'une des émissions de cette série où Hans Münch témoigne et où notamment sa femme raconte comment elle a vécu cette époque.
Also ein Ausdruck, eins weiß ich, das war, hat mich furchtbar erschüttert.
Il y a une chose qui m'a absolument bouleversé.
Ich bin gegangen durchs Lager.
J'ai traversé le camp.
Und dann stehe ich auf einmal vor einem Berg. Und was glauben Sie, wo draußen der Berg war?
Et soudain, j'ai vu une montagne. Et de quoi était faite cette montagne?
Das waren Kinderschuhe.
Et ça, c'était des chaussures d'enfants.
Und dauernd habe ich überlegt, wo sind die Kinder von diesen Schuhen?
Mais où sont les enfants à qui appartiennent ces chaussures?
Und ich wusste gar nicht, was ich denken sollte.
Je ne savais même pas ce que je devais penser.
An der Rampe von Auschwitz habe ich meine Eltern und meine Schwester und meine junge Frau das letzte Mal gesehen.
À la rampe d'Auschwitz, j'ai vu mes parents, ma jeune femme et ma sœur pour la dernière fois.
Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez porté votre uniforme de SS?
Erinnert Sie sich als
c'est important dans la vie d'un homme.
Zum ersten Mal, Sie das Uniform der SS getragen
sehr,
haben, das
sehr
müsste
intensiv. Sehr intensiv.
D'une manière très intensive.
Ja.
Catherine Deneuve set a song when set mon frère Edgar, when huit moi and when neuf Ernst.
Nous, les trois frères, nous portions des numéros à la suite.
Et vous, quel sentiment vous aviez en les voyant? Qu'est-ce que vous éprouviez? À quoi vous pensiez?
Comment je dois dire?
Wir haben sehr unter Durst gelitten, aber dann
beaucoup souffert de la soif.
Il y avait schreckliche Szenen.
Des scènes terribles, horribles.
Wo wir gehalten haben,
là
hat einer, weiß ich, eine Goldbrücke gehabt, hat er rausgerissen, hat für Wasser getauscht bei deinem SS.
Il y en avait un qui avait par exemple une couronne en or et je me souviens qu'il l'a arraché de sa bouche pour l'échanger contre de l'eau que le SS lui donnait.
Yeah. Um 11 und am Nachmittag um 4 kamen immer ein Leichenwagen auf zwei Rädern von zwei Häftlingen geschoben oder gezogen, hat die Leichen gesammelt.
À 11h ou l'après-midi, arrivait une voiture à deux roues, poussée par deux détenus, par deux prisonniers, et qui ramassait les cadavres.
Es war sehr, sehr. Wenn es sehr schlimm ging, dann versagten die Krematorien.
Quand c'était vraiment très surchargé, les crématoires ne marchaient plus.
Dann hat man also auch Holzstößen
Et très souvent, on a dû faire des bûchers. On constituait des
bûchers. Et
donc, on devait pallier à l'extérieur. On construisait des bûchers. On brûlait les cadavres sur des bûchers.
Vous avez vu ça? Vous avez vu ces bûchers à l'extérieur?
Haben Sie das gesehen? Damit den...
Das konnte man nicht übersehen.
Oui, ça, évidemment. On pouvait pas ne pas le voir. Salut, c'est Daniel Mermet avec Lev Bogdan et Guy Vanti. Là-bas, si j'y suis, un si gentil nazi.
Flight number 2, arriving from New York.
Racontez-nous la fin du camp, la fin d'Auschwitz.
Ja, also die Häftlinge haben sehr bald sehr viel gewusst durchs Radio, nicht wahr?
Les prisonniers très vite ont appris ce qui se passait par la radio.
Ja, und die SS hat sehr schnell reagiert.
Les SS ont réagi très vite. La vie normale, c'est terminé.
Die Krematorien sind geschlossen.
On ferme les crématoires.
La vie normale. La vie normale est arrêtée. Yeah. La vie normale est arrêté. Jamais plus il ne porterait son uniforme d'officier SS avec la tête de mort ornant le col et le beau képi. La vie normale, c'était 13 ans de nazisme, c'était ces 19 mois qu'il venait de passer à l'Institut d'hygiène à Auschwitz. Auschwitz, où il est venu volontairement avec son épouse pour faire des recherches dans de bonnes conditions. Hans Münch, médecin, officier, SS, est toujours vivant et nous l'avons rencontré. Il était venu là pour profiter de l'occasion exceptionnelle offerte de travailler sur du matériel humain, aimablement prêté par le centre de mise à mort. Mise à mort par le gaz, mise à mort par le travail, mise à mort aussi par les expériences médicales. Les plus fameuses furent celles du docteur Klauberg sur la stérilité ou celles du docteur Mengele et ses expériences sur les enfants jumeaux. D'ordinaire, ces expériences se faisaient sur des lapins, dit le docteur Münch. Le docteur Münch a survécu à Auschwitz et il a été acquitté à Cracovie en 1947. 1 sur 40. 40 médecins ont été présentés à ce tribunal. 39 furent condamnés. Le docteur Münch a été acquitté. Il a présenté des témoins qui lui ont été favorables et il est devenu le bon nazi. Pas tout à fait le bon nazi, mais disons celui qui a été quand même humain. Il se pourrait que cette figure, ce personnage, soit en fait une imposture. Il y a des vies qui s'éclairent par la fin, écrit quelque part Jean-Claude Guilbeault. Il se pourrait bien que ce soit le cas du docteur Münch. Nous n'en sommes pas sûrs du tout, mais un papier publié dans le journal Le Spiegel montre un tout autre visage de Münch. Des propos qui valent aujourd'hui au bon docteur une action en justice menée par le procureur de Munich. On va passer encore cette heure avec le docteur Münch et c'est une occasion évidemment non pas pour nous de juger, non pas même pour nous d'entreprendre une quelconque enquête, mais une occasion de réfléchir sur ce que fut cette période. À Auschwitz restera longtemps une ombre portée sur le monde, mais portée par qui? Il y a 10 ans, Primo Levi mettait fin à ses jours. Münch et Primo Levi se sont peut-être croisés quelque part à travers ce camp. Dans Maintenant ou Jamais, Primo Levi a écrit ceci.
Si on était tous pareils, le monde serait embêtant. On a une prière spéciale qu'on adresse à Dieu quand on voit quelqu'un qui n'est pas pareil aux autres. Un nain, un géant, un nègre, un type couvert de verrues. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, pour avoir fait que tes créatures soient aussi différentes. Si on le remercie pour les verrues, on doit le remercier à plus forte raison pour un partisan qui joue du violon. Cette heure est dédiée à la vie anormale du partisan qui joue du violon.
Wir waren ja vermietet.
Nous étions
an die Firmen.
Loués à ces firmes.
On nous louait à ces firmes. Die SS hat für einen Facharbeiter, glaube ich, pro Tag 6 Mark bekommen.
Et les SS recevaient par travailleur 6 marques à peu près par jour.
Für einen nicht gelernten Arbeiter 3 Mark.
Et pour un ouvrier non qualifié environ 3 marques.
Es war verschieden, also das kann man nicht.
Il y avait différents tarifs.
Extermination par les expériences médicales et extermination aussi par le travail, Arbeit, Macht, Frei. Max Mannheimer, qu'on retrouve, est passé par Auschwitz. Une famille de 10 personnes venant de Moravie sont arrivées là. Max Mannheimer et deux de ses frères étaient jeunes, en bonne santé, donc ils ont été orienté sur le centre de travail. Le reste de sa famille a disparu à Auschwitz. Nous l'avons rencontré à Dachau, à côté de, dans la banlieue de Munich. Ce qui nous intéressait dans le témoignage de Max Mannheimer, c'est qu'il a pu, à un moment ou à un autre, à Auschwitz, croiser le bon docteur Münch.
Beim Ausmarsch war es so, dass ein Kapo, Helmut mit Vorname,
en sortant, il y avait un capot qui s'appelait Helmut, de son prénom,
beanstandet hat, dass ein Häftling aus Polen, aus Brujana,
a exigé qu'un
richtig marschieren kann.
A constaté qu'un détenu de Pologne, de Brujana, ne pouvait pas marcher correctement.
Du hast es doch 6 Wochen geübt, sagt er.
Il dit, mais tu as appris ça pendant 6 semaines à marcher correctement, à marcher au pas.
Er hat gesagt, er hat Magengeschwüre, Ulkus.
Il dit qu'il avait un ulcère à l'estomac.
Er hat gesagt, er soll sich dann beim Geräteschuppen, wenn die Geräte verteilt sind, bei ihm melden, er hat ein gutes Mittel.
Il lui a dit, viens me voir dans la grange là où on distribue les outils de travail et je te donnerai quelque chose.
Er hat sich gefreut und ich auch.
Il était content et moi aussi.
Nachdem wir 6 Wochen von den Kriminellen in Birkenau so geschlagen worden sind.
Après qu'on ait été pendant 6 semaines battus par ce criminel à Birkenau.
Plötzlich so eine menschliche Haltung.
Il y avait une attitude que nous considérions comme humaine.
Auf einmal höre ich Schreie aus dem Geräteschuppen.
Et soudain j'entends des cris sortant de cette grange.
Ein Schaufelstiel war das gute Mittel, das war die Medizin, hat ihn erschlagen.
Le bon médicament, c'était un manche de pelle, et c'est avec ce manche de pelle qu'il l'a tué.
Um 11 und am Nachmittag um 4 kamen immer ein Leichenwagen auf 2 Rädern von 2 Häftlingen geschoben oder gezogen, hat die Leichen gesammelt.
À 11h ou l'après-midi, arrivait une voiture à 2 roues, poussée par 2 détenus, par 2 prisonniers, et qui ramassait les cadavres.
Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous avez vu?
Erstmal hat man wenig gesehen, aber man hat gehört.
On a très peu vu, on a surtout entendu.
Ein undefinierbares Geräusch von Menschen, die reden.
Un son indéfinissable de gens qui parlent ensemble.
Zwischendurch grille Schreie,
qui dann, parfois criait,
murmure, also immer
murmure,
wahrscheinlich
probablement priait.
Ich habe In den meisten, ich habe dort, ich weiß nicht, 4 oder 5, ich weiß es nicht, wie oft ich hineingeschaut habe.
Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé, 4-5 fois.
Nie lang, immer nur ganz kurze
mais
Zeit.
Mais jamais longtemps, c'était très court, de manière très courte.
Weil man nichts anderes sehen, es war furchtbar.
Parce que c'était horrible.
Gut. Was wollten Sie wissen, was, wie es wirklich war?
Oui, vous voulez savoir comment nicht, c'était en réalité.
Man hat nicht viel gesehen, nur einmal hat einer gesehen, dass ich schaue und interessiert bin und nichts sehe. Dann ist er gekommen und hat Licht gemacht. Verstehen Sie, dass ich das sehen kann?
Il y en avait un jour, il y en a und un qui a vu que je regardais, il est arrivé, il a allumé la lumière pour que je puisse mieux voir.
Das letzte Stadium, das heißt
et
also
c'était,
die,
c'était au, au die dernier
Menschen,
stade.
Die Menschen, die gestanden haben, nicht
les personnes qui étaient encore debout,
offenem Mund noch und
avaient la bouche ouverte.
Das dann alles so zusammen gefallen ist.
Tombé ensemble.
Zwischendurch waren da noch einer, die weniger, die mehr lebendig waren.
Il y en avait d'autres qui étaient encore plus vivants, encore, qui se débattaient, qui criaient plus fort.
Und das war alles.
Et c'était tout.
Und das habe ich mir vielleicht, ich weiß es nicht, ich sage immer 2 oder 3 Mal, also mehr wie 3 Mal auf keinen Fall.
Pas plus de 3 fois, 2, 3 fois.
Und 2 Mal war es bestimmt, ich weiß es nicht.
Je sais plus exactement. 2 fois au moins.
Il y avait quoi, des femmes, des enfants?
Das waren die, jedes Mal nur Frauen.
Chaque fois, ce que j'ai vu, c'était uniquement des femmes. Mais c'était sans doute un hasard.
Un Zufall.
Un hasard.
Ja.
Peu d'êtres vivants peuvent dire ce que dit Hans Münch. Aujourd'hui, Hans Münch, le dernier médecin SS d'Auschwitz. On est là pour tâcher de savoir si l'article publié par Le Spiegel a un quelconque fondement. Et petit à petit, de mot à mot, d'erreur en glissement, on en apprend davantage. Vous étiez donc par ce, j'essaie de vous imaginer, par ce hublot avec votre costume de la Waffen-SS, en train de regarder par ce hublot. Est-ce que vous aviez, Monsieur Münch, est-ce que vous aviez de la compassion pour ces gens?
In dem Gaskammer.
Ja.
Das kann ich nicht sagen. Mitleid natürlich, es war furchtbar.
C'était horrible. C'était horrible.
Mitleid ist kein...
La compassion, c'est...
Mitleid, würde ich das eine Katastrophe
nicht. Compassion, c'est même pas le mot, c'était une Katastrophe.
Und psychologisch überhaupt nicht zu definieren.
Psychologiquement, c'est même pas à définir ce qu'on éprouvait là.
Es ist eine... Es ist sinnlos, darüber zu diskutieren.
C'est absurde d'en discuter. Les Juifs sont Juifs et nous sommes d'autres.
Ce n'est
pas les mêmes.
Damit gut auszukommen und
et on peut très bien s'entendre.
Es gibt kein, für mich kein Unterschied.
Mais il n'y a pas de différence pour moi.
Gut, ich sehe, wenn man mit einem Neger hat man auch einen Kontakt.
Avec un noir, on a aussi des contacts qui peuvent être émotionnels.
Der émotionnel, so oder so.
Qui peut être comme ça ou comme ça.
Ja, also, die rassische, und es gibt Rassenmerkmale, die einem sympathisch sind, nicht wahr?
Il y a des traits de race qui sont sympathiques, d'autres qui sont sympathiques, mais il faut vivre avec ça.
Aber es gibt kein Grund oder.
Mais il y a aucune raison, il y a aucune base.
Die Juden deswegen.
De gazer les Juifs pour cette raison.
Voilà ce que dit Hans Münch aujourd'hui. Mais il y a quelques semaines, au sujet des Tziganes, voilà ce qu'il déclarait. On vous a déjà fait entendre cet extrait. Vous l'écoutez à nouveau aujourd'hui.
On a tout simplement, tout d'abord, porté les Tziganes au nu et loué leurs qualités et leurs dons qu'ils avaient sur le plan musical et qui, en partie, se vérifiaient. Mais d'un autre côté, on a toujours pu constater que d'un point de vue moral, c'était des misérables minables. Ils laissaient mourir les enfants de la manière la plus atroce. Les Tziganes avaient à tout point de vue un statut particulier. Ils avaient de toute façon reçu plus que n'importe quel autre détenu. Ils auraient pu parfaitement survivre de ce point de vue. Et du point de vue de l'hygiène, ils avaient aussi des avantages. Et les enfants sont morts de la manière la plus affreuse que l'on puisse imaginer. Et si vous aviez vu le bâtiment dans lequel étaient ces enfants dans le camp des Tziganes, c'était le plus affreux qu'on pouvait voir. Des rangées entières d'enfants qui mouraient de faim, à qui ne manquait rien et qui sont morts de faim. Ils ont été liquidés parce qu'on n'est pas arrivé à bout d'eux. On n'est pas arrivé
à les
amener à la raison. C'était pratiquement la seule solution possible. Envoyer le camp des Tziganes au gaz. Oui, pour que les jeunes puissent survivre. Dans les conditions dans lesquelles ces enfants vivaient, ils vivaient dans des clans de famille. Ces clans recevaient la nourriture et cette nourriture était suffisante. Et les vieux la prenaient pour l'échanger contre du schnapps ou toute autre chose et ils faisaient des affaires tandis que les enfants mouraient de faim. Une chose pareille, on ne peut même pas la raconter sans donner des chiffres, mais on ne peut plus le faire. Il aurait fallu le faire à cette époque. Mais c'est la réalité, et je l'ai vu. Et je l'ai vraiment vu. Et depuis ce temps, je ne peux plus voir de Tziganes.
Auschwitz,
c'était tout simplement de haut en bas, on les a tous envoyés au gaz. C'était la seule solution. Tous sont allés au gaz, sans exception. Il y avait parmi eux des gens extrêmement qualifiés qui pendant la guerre avaient été officiers, mais tous ont été envoyés au gaz. Même ceux qui avaient été considérés comme personnages particulièrement importants. Mais tout simplement du point de vue de la discipline, il n'y avait pas d'autre possibilité à Auschwitz.
Après le passage dans les chambres à gaz, qu'est-ce qu'on faisait des corps ?
Ça, c'est une chose particulièrement horrible. Pas uniquement pour les gens qui étaient gazés, là. Mais il y avait un commando du crématoire, des crématoires. On a choisi des gens particulièrement forts. On les a bien nourris.
Et
quand c'était fini, ils ouvraient les portes, ils mettaient les ventilateurs en route. Les cadavres étaient sortis, tirés vers l'extérieur. Et on les amenait dans les crématoires.
C'est tout.
Oui, on peut pas en dire plus.
On dit qu'il y a.
C'était des prisonniers.
C'était donc des juifs. Ce commando, ces Sonderkommando, c'était des juifs.
Und die haben ein
gutes Leben gehabt und gut ernährt.
Ils avaient une vie relativement bonne. Enfin, und, ils étaient bien
aber nach einiger Zeit, ich weiß nicht nach welcher Zeit, nach einigen Wochen und Monaten.
Mais après un certain temps, après quelques semaines ou quelques mois,
mussten sie auch ins Gas.
Et ils étaient eux-mêmes gazés.
Das war immer eine große Sache für die SS.
Et c'était aussi toujours une grande, un grand problème pour les SS. Pourquoi? Parce qu'il fallait en trouver d'autres.
Wie man sie hineinbringt in das Gas.
Et c'était évidemment un grand problème pour les SS. Comment on les amène à la chambre à gaz?
Es waren immerhin, also, ich kann's nicht, es waren mehr als 50.
Il y avait toujours plus de 50. C'est des groupes de plus de 50.
Parce que eux, ils savaient où on les emmenait.
Comme... Ils wussten alles.
Ouais, ouais, bien sûr, ils savaient tout.
Ils wussten auch ihr Schicksal.
Ils savaient aussi leur destin.
Und es hat auch einmal, ich weiß von einer, ein Aufstand gegeben.
Je sais qu'il y a eu un soulèvement.
Sie haben sich primitive Waffen besorgt.
Ils se sont trouvé des armes très primitives et ils ont essayé de s'échapper.
Es war ein kurzer Aufstand.
C'était un soulèvement très court, une rébellion très courte. On les a ensuite fusillés individuellement.
Pas
individuellement, on les a refoulés quelque part et on les a à la mitrailleuse, on les a exécutés simplement. C'était un épisode.
Et est-ce que vous avez assisté à cet épisode d'arrachage des dents en or sur les corps, sur les cadavres?
Das Gold von der Rampe, das hat eine große Rolle gespielt, weil es...
L'or de la rampe, disait-on.
Weil es...
L'or de la rampe.
Ja. Weil es sehr viel, es wurde gehandelt damit, oder?
Nein, il y avait même un trafic avec ça.
Es war ein, also ich habe keins gesehen, ich habe,
j'ai pas vu ça.
Es war bekannt, dass also Leute, die dazu Kontakt hatten zu dem Vergasung und zu allem, nicht wahr?
Que les gens qui avaient contact avec ça, avec les chambres à gaz et ça.
Eine Menge Gold gehabt.
Et avaient beaucoup d'or.
L'homme que vous entendez n'est pas, malgré nous, quelqu'un qui aurait été astreint à faire tout ça. Un pauvre type embarqué comme un fœtu dans une catastrophe ou dans un conflit. Il est un médecin, il est d'un milieu éclairé, il a choisi de venir à Auschwitz pour faire ses recherches, sinon il aurait pu rester le médecin de campagne de Bavière qu'il avait commencé d'être. C'est bel et bien un choix et c'est un homme qui adhère à ce qui se passe et ce qui s'est passé à Auschwitz et ailleurs. Il a été, on l'a dit, acquitté par ce tribunal de Cracovie en 1947. Yves Ternon, qu'on a rencontré déjà hier, qui est l'auteur entre autres de L'État criminel, est lui aussi médecin, il fut chirurgien, il est retraité maintenant et il est de surcroît historien, notamment historien des génocides en général et du génocide de juifs pour ce qui nous concerne.
Le docteur Münch appartient avec une étiquette particulière à l'histoire de la médecine nazie puisque dès son acquittement au procès de Cracovie, seul comme vous l'avez dit parmi 40 inculpés, Münch se trouve un personnage particulier avec cette sorte de passeport que lui donne son innocence. Il va être témoin à un grand nombre de procès, en particulier le procès de Ligué-Farben, le procès Kremer, le procès d'Auschwitz, un autre procès contre Hambourg, contre Baer, le procès qui est préparé pour l'extradition de Mengele. Donc Münch est le monsieur que l'on convoque. Et puis dans les années 80, alors que des médecins américains ou israéliens se penchent un peu sur le problème du comportement des nazis, il est interviewé très longuement par Robert J. Lifton, qui va publier un livre qui fait autorité sur le comportement des médecins nazis, et il est interviewé sous un pseudonyme. Mais le pseudonyme ne cache rien, car son histoire est unique et on le reconnaît tout de suite. Et puis un autre psychologue israélien, Dan Baron, fait la même enquête aussi, une enquête parallèle avec son fils aîné, où il analyse de façon assez proche le comportement. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand on lit tous ces documents, je me situe avant l'interview de Skira et la vôtre, c'est que Münch n'opère pas de discontinuité, pas de rupture entre ces déclarations qu'il a faites à son procès de Cracovie, les déclarations qu'il a faites au cours des différents procès, ou les confidences qu'il peut faire sous un pseudonyme à d'autres médecins.
C'est le même discours, c'est le même homme, et c'est la même idéologie.
Oui, je crois que Münch a été jeune homme, il a d'abord été enfant, il a baigné dans cette atmosphère bavaroise, qui est assez spécifique, nationaliste, revancharde, avec d'ailleurs, il le dit lui-même, l'image d'un oncle médecin victime de la Première Guerre mondiale. Il baigne dans cette idée de revanche. Et le nazisme vient véritablement conforter son opinion. Il est dans le moule, qu'il le fasse par intérêt ou par idéologie, il est conquis par l'idéologie, il pense comme un nazi dès le début, et il n'a jamais cessé, à mon avis du moins, de penser comme un nazi, même si son comportement, si ses actions se distinguent de celles d'autres nazis ou d'autres SS, Münch est un homme coulé dans le moule de l'idéologie nazie.
Et il nous dit, j'étais aux jeunesses hitlériennes, je me suis inscrit d'ailleurs au parti nazi en 1937, mais vous savez, à l'époque, on était obligé de faire ça, c'était et d'ailleurs il y avait 45% des médecins allemands qui étaient au parti nazi, etc. Est-ce que vous croyez que on était vraiment obligé?
Non, on n'était bien entendu pas obligé de le faire, puisqu'il y en avait, en fait, il y en avait même plus de 45%, 50%. Ce qui est spécifique, c'est que parmi les professions libérales, la médecine arrive nettement en tête pour le pourcentage d'inscrits au parti, bien avant les avocats ou d'autres professions, le journaliste, la presse, etc. Bon, Münch rentre dans le système parce qu'il y trouve intérêt, parce qu'aussi ce système colle avec son idéologie. Il aurait très bien pu refuser, il y en a d'autres. Et ce qui est étonnant, c'est que sa famille ne semble pas, dit-il, tout à fait immédiatement en accord avec cette idéologie, et il explique d'ailleurs ailleurs que son père a eu une réaction très particulière. Son père considérait au départ qu'Hitler n'était pas quelqu'un de sérieux, et puis vu les résultats, son père se dit, puisqu'il a de tels résultats en Allemagne, c'est quand même que ça doit être quelqu'un de bien. Et voilà ce genre de discours biaisé qui amène à s'interroger de façon très ambiguë sur les motivations d'un tel personnage.
Ce qui est frappant quand même chez Hans Münch aujourd'hui, c'est pas de remords. Pas de remords. On a rencontré, tout le monde rencontre un jour ou l'autre quelqu'un qui se repent, d'une action grave ou pas. Il n'y a pas de remords chez Hans Münch.
Écoutez, ça fait 30 ans que je travaille sur les génocides de différents lieux, et les gens qui ont des remords sont absolument exceptionnels. Dans l'ensemble, le souci qu'a un personnage qui a participé à une action génocidaire est de dissimuler sa propre responsabilité, voire même, s'il peut y parvenir, de cacher l'ensemble. Mais le remords, le pardon demandé à la victime, c'est une catégorie de la pensée qu'ils ignorent. Et comme disait un avocat lors d'un procès récent pour l'occasion du génocide arménien, comment pouvons-nous pardonner à des gens qui ne nous demandent pas pardon?
Vous avez été acquitté à Cracovie en 1946. Ça, c'est le jugement des hommes. Mais vous, vis-à-vis de vous-même, est-ce que vous avez des remords? Est-ce que vous avez le moindre remords?
Ich habe keine Gewissensbisse, weil ich meinte, dass ich da hineingeraten bin, das kann
non,
ich.
Non, je n'ai pas de remords dans ce sens, parce que le fait que j'y sois arrivé à cette chose-là. Je sais pas moi qui ai voulu aller à Auschwitz. Je me suis pas porté volontaire pour Auschwitz. Donc vous êtes un peu victime.
Ja und nein.
Oui, non.
Ja und nein. Das ist es. Ich kann es nur schwer erklären.
C'est difficile à expliquer.
Ich hatte keine Möglichkeit, von Auschwitz wieder wegzukommen.
Je n'avais aucune possibilité de sortir d'Auschwitz. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé.
Oui, et plus, je ne peux pas en dire plus.
Est-ce que par la suite, vous avez été rattrapé par ces images? Est-ce que ces images vous ont hanté, celles que vous nous avez décrites, de ces chambres à gaz, de ces crématoriums, de ces baraques, de ces enfants, de la rampe, etc.? Est-ce que ces images sont revenues vous hanter ou non? Ou est-ce que vous êtes en paix avec ce passé?
Ja, natürlich, aber ich habe, ich wundere, wundere mich, wundere mich selbst.
Mais je m'étonne moi-même. Mais je m'étonne moi-même. Comment je peux relativement bien m'en sortir et vivre avec ça?
Darf ich noch dazu was sagen? Ich habe es ja relativ einfach gehabt. Es war eine Extremsituation.
C'était une situation extrême. Et finalement, c'était relativement facile.
Dans un livre somme et de référence qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe, Hilberg parle du camouflage verbal utilisé par les nazis pour dissimuler les opérations. Hein. Et vous dites que en écoutant parler Hans Münch, vous retrouvez quelque chose de ce vocabulaire nazi.
Ah oui, il y a un travail remarquable de Victor Klemperer qui s'appelle La langue du Troisième Reich et qui montre que un nazi se trahit obligatoirement par les mots qu'il emploie. La langue allemande a été en quelque sorte torturée, que ce soit par la manière dont elle était aménagée dans des mots longs ou surtout la manière dont les mots sont déguisés. Or, en entendant parler Münch de travail, de matériel humain, de méthodes de gazage, de sélection parfaite, de tous les mots que j'entends réintroduits au hasard dans une phrase sont ceux que l'on trouvait jadis soit dans la langue des documents SS, soit même dans les rapports publiés des ouvrages de médecine nazie. Donc il peut quelque part dissimuler son esprit, quand il se replonge dans l'univers d'Auschwitz, il retrouve les mots d'Auschwitz, c'est-à-dire les mots de la banalisation, de la dissimulation, de la rationalité technique, qui font qu'il se révèle, il se montre à découvert sans le savoir.
Auschwitz restera sans doute encore longtemps un véritable bloc d'abîme. Les nazis avaient pour but, bon, quelqu'un parlait de la guerre tout à l'heure, c'est Monsieur Münch qui parlait de la guerre, et qui disait qu'il y avait cette guerre. En fait, il faut jamais oublier une chose, c'est que les trains qui transportaient des gens vers la chambre à gaz, vers Auschwitz, avaient la priorité sur les trains de militaires, les trains de la Wehrmacht. D'abord, il fallait détruire des hommes, des femmes et des enfants, et ensuite faire la guerre. Et ça restera longtemps un mystère pour tout le monde. C'est ce à quoi toute la pensée est mobilisée depuis plus de 50 ans. Pensée, poésie, art, tout ce qu'on peut imaginer pour tâcher de regarder ce bloc d'abîme en face. Encore une fois, avec Hans Münch, il s'agit d'une élite, d'un peuple que les médecins nécessairement constituent. Il faut se reporter, il ne faut pas oublier que cette époque d'avant cette guerre était hantée par la science. On a pu parler de l'Allemagne comme d'une biocratie, c'est-à-dire où la science, les sciences basées sur la biologie prévalait surtout, un peu comme aujourd'hui c'est l'économie qui domine et qui prédomine, et bien à l'époque c'était la science. Et c'est dire le rôle que des médecins et des chercheurs comme Hans Münch pouvaient avoir. Voilà ce qu'en pense aujourd'hui l'historien Yves Ternon. Quand vous dites une idéologie nazie, du point de vue médical, puisque c'est ça votre angle, vous êtes médecin, etc., qu'est-ce que vous entendez par là, par une idéologie médicale nazie?
J'entends cette sorte de renversement de la pensée qui fait du médecin un adepte du racisme biologique, ce que plus tard on appellera un soldat biologique. C'est-à-dire que le seul corps, le seul patient que le médecin allemand a à soigner, c'est le corps national allemand, c'est le Volk, c'est le corps médical allemand. Et les individus ne sont plus ce que nous, médecins, voyons comme quelqu'un à part entière, quelqu'un notre autre à part entière. Les individus ne sont qu'une cellule de ce corps. Et toute la médecine nazie est centrée sur cette idée, ces cellules sont-elles saines, sont-elles malsaines? Si elles sont saines, il faut les développer, on fait une politique démographique positive, on essaye de soutenir et d'aider cette part saine du corps allemand, et si elles sont malsaines, dans l'idéologie nazie, on les supprime.
Et la part malsaine, c'est?
La part malsaine, c'est d'abord les maladies héréditaires, porteurs de maladies héréditaires. Et dès le 14 juillet 1933, paraît une loi sur la stérilisation des porteurs de maladies héréditaires qui va entraîner toute une organisation, toute une structure bureaucratique de la médecine et des tribunaux de santé héréditaire. Il y aura plus de 300 000 personnes qui vont être stérilisées, et le plus souvent à 95% contre leur volonté, en Allemagne avant 1939. La seconde étape, et elle est cruciale, elle est vraiment, c'est vraiment ce que Poliakov appelait le banc d'essai du génocide juif, de la Shoah, c'est l'extermination des malades mentaux, des 10 malades mentaux, en fait, qui étaient surtout des pensionnaires d'asile d'aliénés allemands, de 1940 à août 41, où 72 000 personnes sont assassinées en Allemagne, dans des chambres à gaz construites à cet effet, dans un cadre uniquement médicalisé, puisque les médecins procédaient à la sélection des malades dans les maisons de santé, et que c'était des médecins qui dirigeaient les centres d'extermination, les 6 centres qu'il y avait en Allemagne, c'était eux qui tournaient véritablement la manette de gaz, qui surveillait du début à la fin ces opérations de destruction de vie humaine sur des citoyens allemands. Donc, à partir du moment où ce système de destruction est enclenché, l'ensemble de la Shoah ou du génocide Zigane n'est plus qu'une continuité.
Alors, ce que vous dites là aurait plutôt tendance à innocenter Munch, ou du moins lui trouver des circonstances atténuantes, puisque vous décrivez, vous dites, ben voilà, tout le monde pensait un peu comme lui, ou du moins il pensait un peu comme tout le monde dans son milieu.
Oui, il pensait un peu comme tout le monde, mais la question n'est pas, à mon avis, de savoir si Munch est aujourd'hui coupable ou non, puisqu'il a été innocenté de certains crimes. La question est de savoir que Munch est resté, et je le pense personnellement, aujourd'hui, un authentique nazi fidèle à l'idéologie qui a baigné pendant 12 ans dans l'Allemagne nazie, et même avant d'ailleurs, dans les années qui précédaient l'avènement du national-socialisme.
Georg.
Je suis content que vous êtes venu dans ma maison pour parler du docteur Munch.
Weil wir waren derart erschüttert,
parce que nous étions tellement bouleversés
über diesen Bericht im Spiegel,
après cet article du Spiegel,
weil Herr Münch wurde ja freigesprochen,
parce que M. Münch a été acquitté.
Und dann hat er so und so viele Fernsehsendungen mitgemacht,
il a participé à tant d'émissions de télévision
über Auschwitz,
sur Auschwitz.
Und da wurde uns allen klar,
et pour nous, il était clair que cet homme est parfaitement innocent. Et je suis vraiment écœuré de toute cette affaire. Et pour toutes les affaires qui concernent le docteur Munch, j'ai absolument le même avis que tous mes collègues ici présents.
Un nazi au-dessus de tout soupçon, voilà un peu comment les villageois de Rosshaupten, ce village cossu, confortable, de cette confortable et cossu Bavière, voient les choses. Ils sont absolument outrés par la publication de l'article dans le Spiegel, et ils entendent défendre leur bon docteur qui, depuis les lendemains de la guerre, depuis 1947, est à leur chevet, est un homme modeste, un brave médecin de campagne, de cette campagne, et ils ne comprennent absolument pas quelle rage a bien pu prendre ce mauvais journaliste qui est M. Schirra, de venir embêter ce brave homme, ce brave vieillard qui a été si gentil avec eux, qui a peut-être quelques petits trous de mémoire, mais qui n'en a pas en arrivant à l'âge vénérable de 87 ans. Voilà comment les gens du village, ces messieurs qui sont très courtois, voient les choses. Vous avez appris qu'une instruction était ouverte par le procureur contre M. Münch. Évidemment, ça porte un préjudice à votre village.
Ja, das ist leider so, dass man jetzt nun sagt, aha, schaut dieses Dorf an, was man so, von auswärts bin ich schon angerufen worden, ja, was habt ihr denn da so, die einen sind, lasst euch das gefallen, ja, was soll man denn tun dagegen? Und wenn das wirklich ist, ja, gibt's denn sowas noch? Aber die meisten sind dagegen und sagen nach 50 Jahren, was soll das?
On m'a déjà appelé de l'extérieur, on m'a demandé, oui, qu'est-ce que vous avez là comme affaire, etc. Mais bon, moi je pense que après 50 ans, tout ça, je comprends pas très bien ce que tout ça veut dire.
Das heißt nichts verdrängen, nicht?
Ich will damit nichts verdrängen. Je veux dire qu'ils ne font rien étouffer.
Das bringt nichts.
Ils ne font rien étouffer.
Aber
mais ça n'apporte rien.
Auch die Staatsanwalt sagt wieder, er soll, man habe gefunden. Müssen erst die Beweise auf den Tisch.
Le procureur dit, oui, il semblerait que, on dit que, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord amener les preuves sur la table.
Eh oui, eh ben on va essayer de les amener. Ce sera pas notre travail à nous, ce sera celui de la justice allemande qui va s'occuper de ce dossier. D'autres réactions des villageois. Donc on s'entend. En tout cas, votre village là est ébranlé par cette affaire.
Choqué.
Et pourtant, il y a un certain nombre de vieux nazis qui ont passé leur retraite ici assez tranquillement.
C'est
vrai ou pas?
Sehen Sie ja jetzt, dass in Füssen die Kaserne, einmal General Dietl, Kaserne.
Maintenant, pour preuve que nous voulons maintenant faire table rase de ce passé, que la caserne Dietl à Füssen, elle a été rebaptisée, maintenant elle ne s'appelle plus Dietl, elle s'appelle la caserne Allgäu.
Est-ce que vous étiez tous d'accord pour débaptiser la caserne Dietl?
Non.
Ja?
Oui.
Tout le monde?
Oui.
Tout le monde?
Oui. Ja. Donc, oui. Die Schlagzeile ist schon wieder im Ende und sie suchen neues Opfer. Und doch der Münch wird wieder seine Ruhe.
Ouais. Je pense que les titres à la une sont passés, ça y est, il cherche une nouvelle victime et le docteur Münch, on va le laisser en paix.
Hoffe.
Je l'espère.
Très difficile de trouver dans cette région de Bavière quelqu'un pour dire émettre la moindre critique vis-à-vis du bon docteur Münch. Mais rappelez-vous le partisan qui joue du violon dont parlait Primo Levi. Alors c'est pas un partisan qui joue du violon, c'est un ver qui joue de la guitare. On en a trouvé un, et c'est pas un mince exploit que de rencontrer quelqu'un comme Jakob Knapp. Jakob Knapp, eh ben il est prof dans la région, dans l'Allgäu, et il c'est un dissident. Voilà, le mot c'est dissident.
Mein Name ist Jakob Knapp.
Je m'appelle Jakob Knapp.
Ich wohne hier im Allgäu, bin verheiratet.
J'habite dans l'Allgäu, je suis marié.
Bekannt bin ich,
je suis connu,
als Autor des Buches Falsche Glorie.
Par mon livre que j'ai publié qui s'appelle Fausse Gloire, Falsche Glorie.
Ich klage unseren Bundesminister der Verteidigung an und die Bundeswehr.
Je porte plainte contre le ministre des Armées et contre l'armée.
Dass 30 Kasernen unserer Bundeswehr.
Sur le fait que 30 Kasernen de l'armée allemande.
Immer noch nach Helden, nach Kriegshelden von Hitlers Wehrmacht benannt sind.
Porte toujours des noms de héros criminels de guerre du temps des nazis.
Gut. Einmal war ich erfolgreich nach 7 Jahren Kampf.
Il m'est arrivé après 7 ans de lutte,
konnte ich erreichen, dass die Generaltitelkaserne in Füssen bei Roßhaupten umbenannt wurde.
Je suis parvenu à débaptiser la caserne qui portait le nom du général Dietl à Füssen près de Roßhaupten.
General Dietl ist truppendienstlich verantwortlich für die Kriegsverbrechen in Finnland und Nordnorwegen.
Il est responsable notamment des crimes de guerre en Finlande et dans le nord de la Norvège.
Es war bekannt, dass Dietl seit Juni 1919 Gefolgsmann von Adolf Hitler war.
Il était connu que depuis 1919, juin 1919, Dietl était un compagnon de route de Adolf Hitler.
Nach dem Dritten Reich,
à la fin de la chute du Troisième Reich,
und nach dem Zweiten Weltkrieg,
et après la Deuxième Guerre mondiale,
gab es viele von Hitlers Generälen,
beaucoup de généraux de Hitler,
die ihren Lebensabend im Allgäu verbrachten.
Se sont retirés ici pour passer leur vieillesse.
Denn sie wussten, diese Bevölkerung hier würde das akzeptieren.
Parce qu'ils savaient que la population ici allait l'accepter.
Sie haben eine sehr mythische Sicht von Geschichte hier.
Ils portaient en eux une vision un peu mythique de l'histoire.
Es geht nicht um Konflikt und Opposition, um Aufklärung.
Et il ne s'agit pas de conflit, d'opposition ou d'explication de quelconque.
Sondern wenn die Bevölkerung eine Fahne sieht, dann folgt sie.
Parce que ici, la population, quand elle voit un drapeau, elle suit le drapeau.
Deshalb sagte ein Chefarzt, wenn Dietl ein Nazi war, ist es egal.
Par exemple, un médecin-chef d'un hôpital disait ici que Dietl ait été nazi, c'est absolument égal.
Dietl war ein Held.
Dietl était un héros.
Und das Volk braucht Helden.
Et le peuple a besoin de héros.
Und was ich noch sagen wollte, große Nazi-Generäle wie Ritter von Hengel, Guderian, Leeb, sie verbrachten alle ihren Lebensabend im Allgäu.
Des grands généraux et célèbres comme Ritter von Hengel, le général Guderian, qui commandait les blindés à Bastogne, ou le général Ritter von Leeb, ont vécu ici jusqu'à la fin de leur vie, ici dans cette région.
Et d'après vous, Jacob, tout ça ne pose aucun problème aux habitants de la région, à part vous.
Oh, es gibt vielleicht eine Handvoll im Allgäu.
Il y a peut-être dans toute la région de l'Allgäu, on pourrait les compter sur une main.
Und die Mehrheit sagt, das ist schon so lange her, das ist vorbei.
Et la grande majorité dit, oh, il y a tellement longtemps, ça c'est déjà du passé.
Là-bas, si j'y suis, un si gentil nazi, une émission de Daniel Mermet qui témoigne justement en ce moment au tribunal de Paris sur l'affaire Munch. Merci à Yves Ternon, Bruno Chiron, Jacob Knapp, reportage Guy Vanctil, traduction Lev Bogdan, à la technique Sandrine Laurent et Christophe Boudin, assistant Joël Levert, Antoine Dabrowski et Christophe Imbert, réalisation Bruno Carpentier et Antoine Chao. Demain, Daniel Mermet sera en direct pour une émission avec normalement toutes vos réactions. Sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.